7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour, au-delà des enjeux sanitaires et économiques, la course au vaccin est aujourd'hui aussi devenue un enjeu géopolitique. Vendredi, la Russie annonçait que son vaccin Sputnik V serait produit en Inde. Entre recherche, production, distribution, plusieurs pays passent des accords pour aboutir à la mise sur le marché d'un vaccin. Comment se nouent ces alliances? Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Alors, cela a pu surprendre cette annonce par la Russie de la production de son vaccin en Inde. En quoi cela obéit-il à une coopération en réalité assez attendue? Expliquez-nous.
Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que même si vous êtes capable de concevoir un vaccin, il faut ensuite être capable de le produire. Or, aujourd'hui dans le monde, assez peu de pays ont les moyens et les capacités industrielles pour produire relativement rapidement des millions et des centaines de millions de doses. On voit bien que la Russie a donc les capacités de, encore une fois, concevoir un vaccin, mais que l'Inde a les capacités industrielles. Cela avait été déjà rappelé hein, en mars ou en avril, en plein cœur de la pandémie, lorsqu'on avait mis en avant le fait que normalement de nombreux principes actifs étaient par exemple produits en Inde. Le partenariat entre Moscou et New Delhi est donc parfaitement attendu et tout à fait logique. Et c'est une bonne chose, et cela rappelle indirectement que même si cette pandémie de la Covid-19 a été accélérée par la mondialisation, c'est aussi la mondialisation qui, dans de nombreux aspects, permet de répondre relativement vite à la pandémie et, dans le cas précis, de produire des vaccins.
Et oui, parce qu'en fait, on a bien souvent des partenariats trilatéraux, donc alors entre la Russie, l'Inde et aussi la Chine.
Exactement, il y a un partenariat qui existe pour que le vaccin Sputnik V soit également produit en Chine. La Chine, contrairement à la Russie et à l'Inde, si je peux dire, a l'avantage de combiner les deux attributs que sont la conception extrêmement rapide du vaccin et la capacité industrielle de le produire. En Chine, les recherches sur le vaccin ont commencé dès la fin du mois de janvier. Dès la fin du mois de février, le premier vaccin développé par l'Académie des sciences médicales militaires de Chine était en cours d'essai, et on se rappelle notamment de ces images de la médecin militaire, une générale Chen Wei, qui se faisait inoculer le vaccin dès la fin du mois de février. Et donc c'est extrêmement important, surtout pour la Chine aujourd'hui, d'inverser entre guillemets l'image qu'elle a pu donner au début de cette pandémie et de passer du premier lieu du premier foyer épidémique à aujourd'hui un pays qui est capable de produire en masse des vaccins.
Bon, alors chaque pays pousse ses pions. Alors donc on a les États-Unis par exemple avec Pfizer ou avec Moderna, il y a l'Allemagne avec BioNTech, il y a l'Angleterre avec AstraZeneca et ainsi de suite. Quels deux pays dominent le monde à ce stade en matière de recherche sur le vaccin, Antoine Bondaz?
Alors, comme dans de nombreux domaines, la pandémie de la Covid-19, c'est avant tout un révélateur et un catalyseur de tendances qui préexistaient. On voit donc bien que les acteurs traditionnels sur le marché des vaccins, que ce soit les grands industriels américains, européens, sont évidemment en pointe. Mais la nouveauté, c'est évidemment que la Chine est désormais un acteur devenu incontournable. Il y a trois vaccins chinois principaux qui sont déjà en cours d'homologation, que ce soit le CanSino, le Sinopharm et le Sinovac. Et là, dans ce cadre-là, la Chine, comme les pays européens, a des partenariats avec de nombreux autres pays, que ce soit pour réaliser la phase 3, c'est-à-dire la phase d'études cliniques sur les vaccins. C'est par exemple le cas de la Chine avec le Brésil ou l'Indonésie ou encore le Pakistan. Et c'est encore une fois un révélateur de la nécessité pour l'ensemble de ces pays d'avoir une approche coopérative avec d'autres pays pour mettre en œuvre le vaccin et puis in fine évidemment pour vendre le vaccin et le distribuer.
Bon, mais c'est la Chine qui joue particulièrement gros également dans ce domaine justement, Antoine Bondaz.
Exactement, la Chine joue extrêmement gros puisque son image au sein de la communauté internationale s'est considérablement dégradée depuis ce printemps, notamment dans les pays occidentaux. Et l'objectif de la Chine aujourd'hui, c'est de jouer sur deux tableaux. À la fois une approche bilatérale, c'est la multiplication de la signature d'accords pour faciliter l'obtention de vaccins à certains pays. On l'a vu en Asie du Sud-Est, on l'a vu au Maroc, on l'a même vu aux Émirats arabes unis, États-Unis, où le premier ministre des Émirats s'est déjà fait inoculer le vaccin. Et puis une approche plus multilatérale qui passe notamment par la nécessité et l'importance d'accorder aux pays en développement des doses de vaccins. Et là-dessus, la Chine rejoint une initiative qui est portée par ce qu'on appelle le Gavi. Le Gavi, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance publique-privée créée il y a 20 ans désormais, qui vise à vacciner les pays en développement. Et rejoindre cette alliance est extrêmement important, et c'est d'ailleurs une priorité des Européens, et donc les Européens se sont réjouis que la Chine rejoigne cette initiative.
Mais oui, parce qu'en fait, on imagine évidemment, lorsque vous évoquez les Émirats Arabes Unis, d'autres pays donc comme le Brésil, que la Chine en attend des retours à long terme.
Effectivement, alors évidemment, aucun pays ne conditionne officiellement l'accès aux vaccins produits sur son territoire à des concessions politiques, mais on l'a vu par exemple en Asie du Sud-Est, où certaines communications du gouvernement chinois, par exemple avec la Malaisie, laissaient sous-entendre que la Chine attendait des faveurs politiques en échange de l'accès aux vaccins. C'est donc pour ça qu'il est extrêmement important qu'il y ait des initiatives multilatérales au niveau des organisations internationales, que ce soit l'OMS, mais aussi en lien avec l'UNICEF par exemple, pour l'achat et la distribution de ces vaccins auprès des populations à risque dans les différents pays en développement, qu'il y ait donc ces initiatives multilatérales qui ne conditionnent pas l'accès du vaccin à des choix politiques, mais bel et bien à des choix de santé publique, c'est-à-dire que les pays en développement, et notamment les populations fragiles, puissent avoir un accès au vaccin. Et ça, c'est une priorité notamment poussée par l'Union européenne.
Et pour les États-Unis, alors bon, là, c'est une période un peu particulière, puisque c'est une période de transition politique, mais qu'est-ce que l'on peut imaginer ?
Alors, le paradoxe, c'est que les États-Unis, qui sont même sous Trump le premier donateur en termes de santé publique mondiale, que ce soit à travers, par exemple, les initiatives de lutte contre le VIH et autres, apparaît aujourd'hui comme beaucoup plus en retrait, notamment car l'administration Trump avait décidé de ne pas rejoindre l'initiative COVAX dont je vous parlais précédemment. Ce qui est très clair, c'est que sous l'administration Biden, les États-Unis devraient revoir, entre guillemets, leur copie, rejoindre ces initiatives multilatérales et refaire, si je peux dire, des États-Unis un des leaders en termes de santé publique mondiale et surtout de s'afficher en tant que tel. L'administration Trump avait choisi une stratégie claire qui était de prioriser avant tout et uniquement la population américaine. Une administration Biden fera comme le font les Européens et d'autres grands pays, évidemment protéger sa propre population, mais ne pas oublier que dans le reste du monde, de nombreuses populations vulnérables doivent aussi avoir un accès favorisé au vaccin.
Et alors, la France en tant que telle ?
Alors, la France s'inscrit dans une logique extrêmement européenne. À partir du mois de juin, une stratégie européenne pour le vaccin a été mise en œuvre. La France s'est aussi rapprochée de certains de ses partenaires, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, pour créer une alliance pour le vaccin au niveau européen. L'objectif de l'Europe, il est extrêmement clair. C'est évidemment de s'assurer des centaines de millions de doses pour pouvoir vacciner la population vulnérable en Europe, mais aussi d'avoir une pensée extrêmement forte pour les pays en développement, et notamment au sein du continent africain. Et c'est donc pour cela que les pays européens, depuis le mois de mars et le mois d'avril, poussent pour que l'Europe soit à la pointe, que ce soit dans le financement d'initiatives multilatérales. On l'a vu par exemple avec une levée de fonds considérable dès le mois de mai 2020, mais aussi aujourd'hui à travers cette fameuse initiative COVAX pour s'assurer que notamment les pays africains aient un accès dès l'année prochaine à des doses de vaccins.
Merci beaucoup Antoine Bondaz. Je rappelle le titre de l'un de vos derniers articles, Route de la soie de la santé. Il a été publié sur le site de la Fondation pour la recherche stratégique.